Chapitre 21. Favela de Mangueira, Rio de Janeiro. Le commandant Artem Akinis, le lieutenant Babou Diop ainsi qu'une vingtaine d'agents du bureau d'investigation criminelle se serraient dans le minuscule appartement du quatrième étage. Porte rouge, défoncée, pièce vide.
« Ils n'ont pas pu sortir !» martelait Artem. « Nous étions 20 !» posté autour de la porte de cet appartement, et leur TPC était bloqué. Impossible pour De Castro et cette femme de se téléporter.
Apparemment non, commenta sobrement Babou. Les policiers avaient mis moins de 10 secondes pour analyser la situation, une fois la porte rouge de l'appartement refermée par Lilio De Castro. Le temps de prendre la décision de ne pas se téléporter à l'intérieur, c'était trop risqué si De Castro était armé de faire sauter la porte et d'entrer, armes au poing. Rien. Le journaliste et l'institutrice s'étaient envolés. Seuls 23 cadavres les attendaient.
« Terre de merde !» pensait Artem. « Qu'est-ce que cela signifiait ? Qui étaient ces morts ? D'où venaient-ils ?
Ce journaliste savait-il qu'il se trouvait là ? Comment avait-il pu se volatiliser avec cette institutrice Cléophée ? » Le commandant repassait dans sa tête au ralenti les dernières secondes de la poursuite, pour arrêter l'image sur les yeux de cette femme paniquée, dépassée par les événements, et qui pourtant avait suivi aveuglément De Castro. Cette femme s'était retrouvée par hasard au milieu de cette histoire, il en était persuadé. Elle ne savait rien, ne comprenait rien, s'était simplement laissée entraîner. Était-elle en danger? Plus que toute autre urgence, déjouer un nouvel attentat potentiel, retrouver l'assassin des 10 retraités allemands de Tetamanu, ou identifier les 23 cadavres de la favela de Mangueira, Artem se sentait le devoir de la protéger. Même si elle pouvait être désormais n'importe où sur Terre. Babou, aidé de Nocera et le duc, 2 agents du BIC, examinaient les corps disposés partout dans la pièce, tels des mannequins dans la remise d'un grand magasin. Les cadavres, pour la plupart, étaient ceux d'hommes âgés d'au moins 50 ans. Aucun enfant, peu de femmes. Aucune trace de coups ni d'autres violences. Tous paraissaient être décédés apaisés, sans souffrance, attendant sereinement la mort comme une douce délivrance. Nocera photographiait les visages. Dans quelques secondes, Pangaya leur livrerait l'identité et le curriculum vitae complet de ces individus. Les flashs zébraient d'éclairs blancs la pièce sombre, effrayant les dizaines de rats qui rôdaient autour des corps et détalaient en direction de l'escalier. Indifférent à la fuite des rongeurs, Artem observait par la fenêtre la pluie tomber en déluge sur la baie de Rio. Encore 14 minutes, calcula le commandant. Ensuite, le ciel serait à nouveau bleu, sans aucun nuage, pendant 3 jours non-stop, sur le Brésil du moins. Babou s'était approché de son chef. Tous ces braves gens ont l'air d'avoir succombé à la plus naturelle des morts. Dis-moi, Artie, quand les gens meurent, ils ne sont pas censés être téléportés dans des crématoriums ou des cimetières? Avant, je veux bien, c'était plus compliqué. Les croque-morts, les corbillards, les curés qui attendaient leur tour. Les cadavres traînaient un bon moment sur leur lit de mort. Mais aujourd'hui, c'est direct dans la tombe, non ? Da Silva, un agent spécialisé dans les disparitions inquiétantes, s'autorisa à prendre la parole.
« J'ai un oncle qui a fait un truc qui pourrait ressembler. Il était madérien. Il voulait à tout prix être enterré sur son île. Tout le monde était au courant dans la famille. Quant à l'hôpital, il a compris que tout était fini. Il s'est téléporté là-bas, à Funchal. » La famille l'a enterré en grand secret sous un chêne centenaire.
Artem se fit la réflexion que Da Silva, par ailleurs un excellent policier, était sacrément gonflé de lui raconter cette anecdote. Se faire enterrer où l'on voulait était contraire à la Constitution de 2058. Si on ne contrôlait pas les inhumations, on se retrouverait avec des cadavres à chaque panorama. Les superstitions issues des anciennes religions n'avaient pas complètement disparu. Et, à coup sûr, une bonne partie de la population humaine aurait aimé reposer dans un endroit jadis sacré, et plus encore, que leurs proches puissent venir se recueillir dans les plus beaux endroits de la planète, transformés en charniers. La pluie s'infiltrait dans l'appartement, suintant le long des poutres pourries du toit, à se demander comment elles avaient pu résister aux averses hebdomadaires de l'Organisation mondiale du climat. Les îles de la baie de Rio disparaissaient une à une dans la brume. Seul le pain de sucre ne s'était pas dissous sous les trombes d'eau.
Pour résumer, analysa Babou, on serait en présence de cadavres clandestins, de terriens qui s'arrangent pour mourir en secret afin de ne pas être téléportés et enterrés par les bons soins de l'OMD. Sauf que ça n'explique pas ce qu'ils fichent ici, dans un endroit aussi glauque et aussi nombreux.
Vous avez remarqué ?
Fit une voix derrière eux.
Misha. Elle s'était téléportée à 2 mètres 2 avec la discrétion d'une fée, d'armes 4 dans les bras. Dès qu'elle les desserra, il sauta pour poursuivre les rats.
Les agents observaient, stupéfaits, cette petite poupée en jupe et top moulant, grands yeux, franges et courbes paraissant avoir été dessinées par un génie du manga.
Artem allait protester quand Misha leva la main. « Je sais, je devrais être sur Pangaea à courir après ce tueur blond. D'ailleurs, en attendant qu'on trouve son nom, j'ai décidé de l'appeler Khan. Vous vous souvenez, le méchant cryogénisé qui se téléporte dans Star Trek ?»
Visiblement, aucun policier n'avait jamais vu cette série de science-fiction démodée.
« Autre chose !» se hâta d'enchaîner la jeune coréenne. « Le poignard que Khan portait à la ceinture avec lequel il a égorgé l'Allemand sur son lit façon smiley est un santoku, un couteau japonais qui sert à couper le poisson cru, une lame redoutable à triple tranchant qui... »
Elle s'arrêta soudain de parler. Le commandant la fixait, lui intimant, sans avoir besoin de prononcer le moindre mot, d'aller droit au but.
« Bon, sinon, toujours aucune trace de lui. Par contre, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle en direct. »
Elle s'adressait cette fois aux 20 agents du BIC.
« Le duc vient de m'envoyer le portrait de vos défunts. Vous voulez rire ?»
Artem la fusilla du regard.
« 23 cadavres, des rats, des terroristes en fuite.
Non, pas vraiment. »
« Ces gens ne sont pas morts !» cria Misha. « D'après Pangaea, ils sont bien vivants !»«
Attends, » bafouilla Babou, « tu nous expliques ?»
Misha suivit des yeux d'Arncat qui s'étaient figés en position de guet sous un meuble avant de les relever et les poser tour à tour sur chaque policier.
« C'est simple, quand quelqu'un meurt, il est rayé des fichiers de Pangaea ainsi que son TPC personnel, qui évidemment ne sert plus à rien. Mais toutes les personnes qui reposent dans cet appartement, pas bien en forme, je vous l'accorde, n'ont pourtant pas été déclarées décédées sur Pangaea. Et mieux que ça, si je consulte leur TPC, elles continuent bien tranquillement de se déplacer un peu partout sur Terre. »
Artem s'appuya contre le rebord de la fenêtre.
« Regardez !» poursuivit Misha d'une voix de première de la classe. « Aucune trace de TPC à leur poignet !»
Le commandant Akinis avait déjà entendu parler de ces rumeurs de trafic, même si, jusqu'à présent, il n'en avait eu aucune preuve concrète.
« Continue, Misha, » fit Babou. « Je suis certain que tu ne nous as pas tout dit. »«
Viens là, Minou. Celui-ci est trop gros pour toi. »
Darncat poursuivait un rat obèse qui se faufilait entre les 4 jambes de 2 cadavres empilés.
« Eh bien, messieurs, aussi puissante soit Pangaea, aussi performant soit son algorithme de gestion des déplacements, des espaces privés et des taux d'occupation, il y a aussi sur la planète un bon nombre de petits malins qui ne se débrouillent pas trop mal en informatique. Donc imaginez, on sait qu'il existe un TPC par terrien qui lui est personnel. Mais si la mort d'un type n'est pas signalée et qu'un petit débrouillard récupère son TPC, le bidouille un peu pour qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre, ni vu ni connu. Il peut se téléporter sous une fausse identité.
Sacre lune, fit Babou. Et selon toi, ici, ce serait...
Une planque, triompha Misha. Un coin discret où tu prends rendez-vous avec un passeur qui, pour une jolie petite somme, je suppose, te permet de voyager incognito n'importe où dans le monde.
Artem se concentrait, tirant le fil de ce qu'il venait d'apprendre. Misha avait sans doute raison. Des trafiquants devaient acheter ces TPC à des terriens en fin de vie, pour les revendre ensuite clandestinement. Un sacré nombre de nouvelles questions se posaient alors. Comment de Castro avait-il eu connaissance de cette planque? Il ne croyait pas que ce journaliste, qui venait de s'entretenir personnellement avec le président Nemrod, puisse être lui-même un terroriste. Avait-il un lien avec le tueur blond, enfin Khan? Misha avait raison, c'était plus simple pour l'enquête de lui trouver un nom. Tout cet enchaînement d'événements avait-il un lien avec la Nouvelle Babel? Les journaux ne parlaient que d'elle, en dehors du massacre de Tetamanou, bien sûr. Et que venait faire cette femme, Cléophée Loisel, dans toute cette histoire?
La pluie cessa brusquement. À 22 heures précises,
le désormais habituel arc-en-ciel salua le retour du soleil, surplombant le mont du Corcovado, pour s'accrocher en écharpe aux bras ouverts de la statue du Christ Rédempteur. Par tous les cratères de Jupiter, jura Babou.
Moi qui pensais Pangaïa inviolable, un ordinateur plus puissant que toute l'intelligence de tous les humains réunis.
On en apprend tous les jours, mon grand,
s'amusa Micha en s'agenouillant devant le lit.
Darny chérie, sors de là!
Elle se mit à quatre pattes, agitant le triangle blanc de sa culotte sous le nez de la dizaine d'agents.
À ce propos, puisque ces braves gens ne sont pas pressés,
elle poussa négligemment le pied botté d'un cadavre,
qui peut m'expliquer ce que signifie Pitchipoy ?